Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons d'un des grands paradoxes internationaux actuels. Les échanges commerciaux internationaux sont vitaux pour l'économie mondiale et pourtant jamais depuis longtemps, les menaces sur ces échanges n'ont paru aussi graves. Lors des dernières réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI à Washington, on a même évoqué avec la plus grande inquiétude et le plus grand sérieux les prémices d'une possible guerre commerciale. Le principal déclencheur de cette alerte, c'est la posture qu'a adoptée depuis son élection le président américain Donald Trump. Écoutez ce qu'il disait le 22 mars dernier.
We have one particular problem, and that's China.
On a un problème particulier et c'est la Chine. Je les vois comme des amis, j'ai un respect immense pour le président Xi, nous avons une très bonne relation, il nous aide beaucoup pour la Corée du Nord, mais nous avons un déficit commercial, selon la manière dont on le calcule, de 504 milliards de dollars. Certains disent qu'en réalité, c'est un déficit de 375 milliards, mais quoi qu'il en soit, c'est le plus grand déficit jamais enregistré par un pays dans l'histoire de notre monde. C'est en dehors de tout contrôle. Nous faisons face au vol de notre propriété intellectuelle. Donc, nous allons instaurer des taxes à l'importation qui vont atteindre un montant de 60 milliards de dollars par an. Nous devons faire cela. Le mot que je veux utiliser, c'est la réciprocité. Quand ils taxent nos voitures à 25% et que nous taxons les leurs à 2% pour qu'elles arrivent sur le marché américain, eh bien cela ne va pas.
Mais les autorités chinoises ne se laissent pas intimider par ce discours. Voilà ce que déclarait Gao Feng, le ministre chinois du commerce, le 5 avril dernier.
En ce qui concerne le commerce sino-américain, la position de la Chine est très claire. Nous ne voulons pas d'une guerre commerciale, mais nous n'avons pas peur d'une telle guerre. Nous saurons écouter et entendre de quelle façon elle se déploie. Si les États-Unis ignorent l'opposition de la Chine et de la communauté internationale et persistent dans leurs mesures unilatérales et protectionnistes, alors la Chine est prête à aller jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Et nous allons sans aucun doute prendre de nouvelles mesures pour y riposter, dans l'objectif de défendre les intérêts du pays et du peuple.
L'Europe n'est pas laissée à l'écart par les critiques de Donald Trump et de son côté, lors de son discours devant le Congrès américain cette semaine, Emmanuel Macron a mis les points sur les i.
We need a free and fair trade.
Nous avons besoin d'un commerce libre et équitable, évidemment. Une guerre commerciale qui oppose des alliés n'est pas compatible avec notre mission, avec notre histoire, avec notre engagement actuel pour assurer une sécurité globale. Au bout du compte, cela tuerait des emplois, augmenterait les prix et la classe moyenne en paierait le prix. Je crois que nous pouvons trouver les bonnes réponses aux préoccupations légitimes sur le commerce et ses équilibres, les excès et la surproduction en négociant par l'intermédiaire de l'Organisation mondiale du commerce et en construisant ensemble des solutions. Nous avons écrit ces règles, nous devrions les suivre.
We wrote these rules. We should follow them.
Le sujet ne se limite donc pas à de simples questions commerciales. Ce qui est en jeu, c'est le niveau de vie général des populations. Qui sont les gagnants et les perdants de la globalisation? Ce qui est en jeu, c'est le destin des nations et de leurs citoyens. Et pour évoquer ces sujets fondamentaux pour l'avenir du monde, j'ai choisi de vous inviter. Bonjour Sébastien Jean.
Bonjour.
Sébastien Jean, vous êtes directeur de recherche à l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, mais surtout économiste. Vous occupez à ce titre un poste éminent et prestigieux, puisque vous dirigez le CEPI, le Centre d'études prospectives et d'informations internationales, qui vient de fêter son 40e anniversaire. À cette occasion, le CEPI publie un petit livre électronique, 40 ans de mondialisation en 40 graphiques. De quoi s'agit-il exactement ?
Donc, comme vous l'avez dit, nous avons voulu commémorer le 40e anniversaire du CEPI, dont la mission est de décrypter, somme toute, les mécanismes de l'économie internationale, de la mondialisation. Et donc, on a choisi de le faire ici, à travers ce petit livret, sous forme graphique, pour essayer de décrire les tendances d'ensemble, d'en donner une vue englobante, aussi bien sur les questions commerciales que macroéconomiques, financières, de migration ou d'environnement. Donc, voilà, j'espère que ça sera un élément utile, à la fois pour se faire une vue d'ensemble, et puis, pour les gens qui ont à transmettre ou qui ont à enseigner aussi.
Alors c'est un petit livre qui tient dans la main, je l'ai dans la main en vous parlant, mais il est aussi en formule électronique et libre d'accès sur le site du CEPI.
Absolument.
Et à travers le site de RFI, vous pourrez retrouver le lien sur la page de l'émission Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI.fr. Je vous donne simplement pour le petit sourire le titre de ce livre, Carnet graphique, sous titre L'économie mondiale dévoile ses courbes. Alors des courbes au cours de cette émission, nous allons bien sûr en évoquer. Nous entendrons aussi une brève interview de Pascal Lamy, l'ancien directeur général de l'OMC. Nous avons rendez-vous avec nos correspondantes et correspondants Anne Corpet à Washington, Eric de Salva à San Francisco, Aude Villiers à Buenos Aires et Heike Schmidt à Pékin. Un programme chargé, vous le voyez. Bruno Le Maire, le ministre français des Finances, a déclaré il y a quelques jours à Washington lors des assemblées générales du FMI de la Banque mondiale que le système commercial mondial était sur le point d'exploser en vol. La Banque mondiale et le FMI s'inquiètent, je l'ai dit tout à l'heure, d'une guerre commerciale à venir. Sébastien Jean, la situation est-elle si grave ?
La situation était très sérieuse, je crois, en effet, parce que les États-Unis sont, au fond, le leader et ont été historiquement l'architecte du système commercial multilatéral, du système d'organisation multilatérale des relations économiques dans lequel nous vivons. Or, aujourd'hui, ils sont en train de contester fortement ce système et potentiellement de le saper de l'intérieur. Donc, ça représente une menace existentielle, effectivement, pour le système d'organisation des relations économiques internationales tel qu'il existe actuellement. C'est une menace, ça n'est pas une réalisation de cette menace, parce que on est plus dans l'annonce, dans la mise sous pression que dans la réalisation. Et c'est toute l'incertitude liée à cette politique économique de Donald Trump, dont on voit que il est très partisan, disons, de déstabilisation, de d'intimidation aussi, dans une certaine mesure, pour essayer de faire bouger les équilibres.
Alors, Donald Trump, malgré tout, a déjà mis en place une série de mesures protectionnistes, celles qui ont fait le plus de bruit jusqu'à présent, et pour cause, ce sont les taxes douanières sur l'aluminium et l'acier. Écoutez le reportage qu'avait réalisé notre correspondante Anne Corpet lors de la promulgation de ces mesures le 8 mars dernier. On est dans le bureau ovale de la Maison Blanche.
La mise en scène est soignée. Donald Trump a invité des sidérurgistes à la cérémonie de signature. Ils se tiennent debout derrière le président, leur casque sous le bras. Et lorsqu'il annonce l'imposition de ces nouvelles taxes sur l'acier et l'aluminium, Donald Trump reprend le thème qu'il a porté au pouvoir. Une Amérique assiégée qui doit se défendre.
Nos industries ont été visées pendant des années et des années, pendant des décennies même, par des pratiques commerciales déloyales qui ont conduit à la fermeture d'usines, l'abandon de millions d'ouvriers, une hécatombe pour des communautés entières. Ce n'est pas seulement un désastre économique, c'est aussi un désastre sur le plan de la sécurité. Nous voulons construire nos navires, nos avions, notre équipement militaire avec de l'acier et de l'aluminium de notre pays.
Vous voulez dire un mot ? Allez-y, demande ensuite le président tout sourire à l'un des ouvriers. Dusty Stevens, sidérurgiste du Kentucky, prend alors la parole.
Il y a 2 ans, nous avons fermé 60% des capacités de l'usine quand le marché est tombé. Mais quand ces taxes seront instaurées, nous pourrons tourner à 100% et plus de 300 emplois reviendront dans la communauté.
Avec l'instauration de ces taxes, le président compte sécuriser le vote de la classe blanche ouvrière de la Rust Belt, la ceinture de rouille, dans la perspective des élections de mi-mandat.
25% de taxes douanières supplémentaires sur l'acier, 10% sur l'aluminium, le Mexique, le Canada, l'Europe est exemptée pour l'instant. Sébastien Jean, Donald Trump justifie ces mesures par le déficit commercial américain et par les questions de sécurité. Est-ce que ce sont de bons arguments ?
Il manque beaucoup de cohérence. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'avec Donald Trump, l'approche du commerce, elle commence toujours par le constat que le déficit, c'est une faiblesse, voire même une faute politique. Et donc, c'est un peu son point d'entrée, disons, dans les questions commerciales. Il ne faut pas faire de déficit. Régulièrement, quand on regarde les relations avec les partenaires, il va regarder le déficit bilatéral pour se faire une idée de la qualité de la relation commerciale, ce qui est absolument illogique en termes d'économie, solide. Hein, je dirais, au fond, si on voulait changer notre déficit bilatéral avec les États-Unis, on pourrait leur acheter une grande quantité, par exemple, de pétrole ou de gaz, et puis la revendre à un pays tiers. Ça changerait le déficit bilatéral avec les États-Unis, sans changer absolument le fondement de la nature de notre nos équilibres macroéconomiques ou de notre relation commerciale.
On entendait dans le premier extrait sonore qu'on a diffusé tout à l'heure, Donald Trump donnait les chiffres de 575 milliards de dollars de déficit commercial avec la Chine.
Oui, ce qui est un chiffre très, d'ailleurs,
il donnait un autre chiffre en même
très
temps,
déformé. C'est-à-dire que d'après les statistiques américaines, c'est 375 milliards si on s'en tient au commerce de biens, c'est moins si on prend en compte les autres éléments, notamment les services. D'après les statistiques chinoises, c'est nettement moins, autour de 250. Dans tous les cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un déficit bilatéral très important. Mais disons, ce que dit l'analyse économique, c'est que paradoxalement, si on veut, d'une part, le déficit bilatéral par rapport à un pays, ça n'a pas d'interprétation directe, facile. D'autre part, le déficit commercial, ça n'est pas principalement une question de politique commerciale, c'est une question de politique macroéconomique. C'est-à-dire que si j'augmente ma protection commerciale, au fond, mon taux de change, d'une façon générale, hein, mon taux de change va s'ajuster et ça ne va pas changer. C'est-à-dire que, au fond, je vais avoir l'impression de...
Si on met des barrières douanières, c'est ça?
Si je mets des barrières douanières plus élevées... il va y avoir un ajustement qui va faire que mon taux de change va s'apprécier. Et ça va pas changer le fond de mon déficit commercial, parce que le déficit commercial, c'est quelque chose qui est déterminé de manière macroéconomique, c'est l'épargne nette de la nation. C'est-à-dire qu'une nation qui est en déficit commercial par rapport au reste du monde, c'est parce qu'elle consomme plus qu'elle ne produit. Hein, en fait, la bonne mesure, c'est d'ailleurs le déficit courant, parce que ça ajoute le commerce de services et les transferts, mais le fond du problème est le même. Donc, si je suis en déficit commercial, c'est parce que je n'épargne pas assez par rapport à ce que j'investis, ou bien, ce qui est la même chose, parce que je ne produis pas assez par rapport à ce que je consomme. Tant que je n'ai pas rétablit cet équilibre entre production et consommation, si on veut, ou entre épargne et investissement, peu importe les barrières commerciales que je vais imposer, ça ne va pas régler mon problème. Donc c'est ça le problème de fond des États-Unis aujourd'hui, qui est d'ailleurs qui est manifeste depuis la fin des années 70, et c'est pas indépendant depuis qu'on est en système de taux de change flottant, parce que les États-Unis ont la monnaie de réserve internationale, si bien que tous les autres pays, au fond, sont demandeurs pour acquérir une quantité importante de cette devise, ça leur de réserve, de réserve de valeur, disons. Et ça veut dire que les États-Unis trouvent toujours des gens pour leur prêter de l'argent. Et donc, ils ont pu s'installer depuis des décennies dans un système où ils consomment plus qu'ils ne produisent. Et c'est ça quand même le fondement du déficit commercial américain. Et si on veut modifier ça, eh bien, il faut ajuster les équilibres. Ça peut se faire. Hein. Par exemple, ça peut se faire en taxant plus la consommation par rapport à la production aux États-Unis. Or, précisément, quel est le seul pays de l'OCDE qui n'a pas de taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire la taxe principale sur la consommation qu'il y a partout? C'est les États-Unis. Ils ont fait ce choix depuis des décennies de privilégier la consommation, de privilégier le consommateur, souvent, sur le producteur. C'est aussi un aspect de ce déséquilibre.
Qu'est-ce que c'est qu'une guerre commerciale? On nous parle de guerre commerciale, mais qu'est-ce que c'est?
J'aime pas beaucoup le terme, hein, à vrai dire, parce que je trouve qu'il est trop imagé pour vraiment donner une image fidèle de ce qui peut se passer. Mais je crois que le fond de la question, c'est que nous sommes dans ce qu'on peut appeler un équilibre coopératif, c'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur des règles, on s'est mis d'accord en fait pour ne pas essayer de manipuler ce qu'on appelle les termes de l'échange, c'est-à-dire les prix de nos importations par rapport aux prix de nos exportations, pour ne pas essayer de gagner au détriment du partenaire un avantage sur le prix de ce qu'on commerce. Donc si tout le monde respecte ces règles, on est dans un certain équilibre, c'est ce que l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, essaie d'organiser. Ce qu'on pourrait appeler guerre commerciale, c'est un autre équilibre dans lequel on décide de plus du tout respecter ces règles. Alors à ce moment-là, c'est une sorte de ce qu'on appelle souvent le dilemme du prisonnier, c'est-à-dire chacun individuellement n'a plus intérêt à respecter ses règles, à se réfréner, d'essayer de gagner un avantage sur les prix du commerce. Donc chacun va avoir intérêt à augmenter ses droits de douane, mais le partenaire va faire pareil, si bien qu'au final, personne n'arrive à vraiment manipuler ces termes de l'échange, hein, ces prix des exportations par rapport à vendre plus cher, en gros, parce qu'ils vendent plus cher, mais ils achètent plus cher. cher aussi. Donc personne n'y gagne de ce point de vue-là. Et ça provoque beaucoup de distorsions et beaucoup de problèmes dans l'économie mondiale parce qu'il y a une taxation, puis après une représaille et puis une surenchère. C'est ça, hein, la guerre commerciale. Il y a assez peu, il y a des exemples spécifiques.
Il y a eu des antécédents.
Alors, on se réfère toujours aux années 30, hein, ce qui... Je ne sais pas si c'est au fond le bon modèle. Il y a
les années 30, c'est 1930, je précise.
Donc les années 30, pourquoi ? Parce que il y a eu cette loi, ce qu'on appelle le tarif Smoot-Hawley aux États-Unis en 1930, qui a joué un rôle important. Qui d'ailleurs est souvent surestimé. Donc c'était la révision d'ailleurs qui était prévue de longue date des droits de douane, de la protection commerciale américaine. Au départ d'ailleurs prévu pour destiner à donner plus de protection à l'agriculture. Et puis est venu, hein, donc ça avait commencé l'établissement de cette loi au début 1929. Est venu là-dessus la crise d'octobre 29 et la crise boursière et puis dégradation très forte du climat économique, enfin la crise, et ça aboutit finalement à une loi qui a été fortement protectrice, hein, et qui a amené le niveau de protection américain à, c'est pas un sommet historique, mais un niveau très élevé, qui était un peu inférieur, au début un peu inférieur à 50% dans l'industrie, alors en plus ça a été...
50% de droits de douane.
50% de droits de douane, enfin 47% exactement au moment de la loi, au moment où elle a été établie, sur les produits taxables, qui n'étaient qu'une partie, moins de la moitié, de l'ensemble des importations. Et donc, on est même arrivé jusqu'à 60%, parce que c'était des droits de douane établis par unité de produits, hein, ce qu'on appelle les droits spécifiques, et la déflation a fait que dans les années qui ont suivi, la valeur proportionnelle de ces droits de douane a augmenté. En fait, quand on regarde par rapport à l'ensemble des importations, et non pas seulement par rapport à celles qui étaient taxables parce qu'elles avaient un droit de douane précédemment qui était déjà non nul, disons, on est quand même à des niveaux nettement inférieurs, de l'ordre de 20% plutôt, 20-25. Donc, selon certaines estimations, le droit de douane américain, il était à 20% avant, il est passé à 25% avec cette loi. Donc, ça a considérablement augmenté, hein, c'est une augmentation assez forte. Ça n'a pas non plus été le facteur principal en fait d'effondrement du commerce mondial à ce moment-là, c'est quand même la crise économique qui a été le facteur principal. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite de cette loi protectrice américaine, les autres pays, les uns après les autres, et très rapidement, ont réagi par des contre-mesures de représailles, si bien qu'il y a eu une augmentation considérable de la protection commerciale au niveau mondial, et on a bien observé que ça entretenait la crise économique, c'était un facteur d'aggravation.
Donc avant la Deuxième Guerre mondiale.
Avant la Deuxième Guerre mondiale, surtout entre 1930 et 1935, en fait, cette période-là. Voilà. Et donc ça, c'est un facteur, c'était on peut effectivement appeler ça une guerre commerciale assez généralisée, parce qu'il y a eu en particulier cet engrenage. Ensuite, il y a des conflits, disons, plus limités. Hein, un précédent, récent et assez illustratif, c'est ce qui s'est passé notamment en 2002. L'administration Bush a décidé de mettre ce qu'on appelle des mesures de sauvegarde, donc de taxer les importations américaines d'acier.
Déjà,
c'est pas du tout une coïncidence, hein, parce que l'acier, c'est une industrie assez concentrée, assez déclinante aussi, qui a un très fort pouvoir de lobbying, des habitudes bien ancrées aussi, donc un accès un réel poids auprès des décideurs à Washington. Et donc là aussi, on a vu d'une part qu'il y avait une logique de représailles, mais ça a été canalisé par l'OMC et notamment l'Europe. A ses plaintes auprès de l'OMC, a obtenu gain de cause auprès de l'OMC et du coup elle a obtenu de l'OMC le droit dans le cadre des traités de mettre en œuvre des représailles qu'elle avait ciblées politiquement et qui ont amené l'administration américaine à supprimer ses droits un an et demi après.
C'était Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI, nous parlons du commerce mondial face à la déflagration de Trump, c'est le titre de cette émission, avec Sébastien Jean, directeur du CEPI. Alors on l'a dit à maintes reprises depuis le début de cette émission, le pays qui est surtout pour l'instant dans le collimateur de Trump, mais ça n'est pas le seul, c'est la Chine. Notre correspondant en Californie, Eric De Salve, est allé demander à un représentant de la communauté chinoise du Chinatown de San Francisco comment cette communauté perçoit les offensives tarifaires et douanières du président américain contre Pékin. Reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Eric De Salve.
Il travaille pour l'une des plus anciennes associations d'immigrants chinois de San Francisco, la Chinese Six Companies, fondée en 1851. Stephen Wu, citoyen sino-américain, a connu bien d'autres crises diplomatiques avec Washington, mais cette fois les attaques répétées de Donald Trump contre Pékin ont heurté sa fibre patriotique.
Tous les mots durs de Trump sont vécus comme des affronts par la communauté chinoise. On refuse des mots si durs contre la Chine parce que c'est notre mère patrie et nous voulons que sa réputation soit respectée.
Des mots et des actes mécontents du déficit commercial avec la Chine, Donald Trump a déjà fortement relevé les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium. Le président américain menace maintenant de taxer 50 milliards de dollars d'importations chinoises si Pékin n'ouvre pas plus son marché aux produits américains. Selon Stephen Wu, le scénario d'une guerre commerciale risque de ne faire que des perdants.
Il y aura évidemment de l'inflation. Les États-Unis sont un grand importateur de biens chinois, donc les prix en supermarché, dans le textile, vont grimper. En réponse, les prix des produits américains en Chine vont aussi augmenter. Ils seront peut-être même interdits. La Chine va devoir les remplacer. La bourse réagit mal à cela. À chaque fois qu'il y a des négociations de guerre commerciale entre Pékin et Washington, la bourse plonge. Donc ce scénario serait mauvais pour l'économie mondiale, pour les États-Unis et pour la Chine.
Mais Stephen Wu a bon espoir qu'un accord soit trouvé, notamment grâce à la délégation du secrétaire au Trésor américain qui doit se rendre à Pékin dans les prochains jours.
Les deux savent que ce sont des techniques de négociation. Le président Xi a fait une déclaration très conciliante il y a deux semaines. Il a promis d'ouvrir le marché chinois. Tous les deux vont dans la bonne direction.
Le spectre d'une guerre commerciale entre Washington et Pékin n'inquiète donc pas outre mesure Stephen Wu, pas plus qu'il ne perturbe l'activité touristique de Chinatown.
Reportage signé Eric De Salve à San Francisco. Sébastien Jean, il parlait inflation. Le représentant de la communauté chinoise, Monsieur Wu, interrogé par Eric De Salve, il a raison.
Potentiellement, oui. Si on regarde les mesures qui ont été prises, les mesures commerciales jusqu'ici, ça représente des montants qui, relativement à la consommation intérieure américaine, sont très limités.
Oui, parce qu'on parle de 50, 60 milliards, mais c'est rien par rapport à...
Oui, la consommation intérieure totale aux États-Unis, elle dépasse les 15 000 milliards de dollars. On va être au pire, disons, là, sur peut-être 1% de la valeur consommée aux États-Unis. Donc l'impact direct, il va exister, mais il va pas forcément être très important. Mais la question, c'est aussi quel est l'impact, enfin, où ça s'arrêtera d'abord, parce que ça n'est que potentiellement que les premiers épisodes de quelque chose qui peut en avoir d'autres. Le deuxième point, quelle est la contagion? C'est-à-dire que si, quand Donald Trump protège l'industrie sidérurgique américaine, par exemple, c'est pour permettre à cette industrie de reconstituer ses marges, donc d'une certaine façon d'augmenter ses prix. Et d'ailleurs, c'est ce que la Fed dans un rapport récent...
La Réserve fédérale américaine, la Banque centrale.
Absolument. A mentionné dans un rapport très récent sous-régions américaines, ils observaient qu'il y avait des tendances inflationnistes dans le secteur de l'acier. Donc ça, c'est pas juste le prix des importations, c'est le prix de la production nationale, en fait, qui augmente. Et c'est ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Je parlais de 2002. Typiquement, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, souvent, ça s'est répercuté plus sur les profits des entreprises que sur l'emploi, parce qu'en fait, tout ça, c'est pas forcément dans un cadre durable, donc on peut augmenter ses prix pour un certain temps, bon, ben, ça augmente les profits. Donc, en tout cas, il y a cette contagion, donc ça peut augmenter, effectivement, ça peut créer de l'inflation, et je dirais que c'est pas forcément un facteur durable très important, mais ça arrive à un moment, en plus, un peu de bascule aux États-Unis, dans lequel on s'interroge sur le retour de l'inflation, depuis en particulier la fin de l'an dernier, début de cette année, avec la réforme fiscale américaine également qui a créé des éléments dans ce sens. Et donc ça peut être un élément qui change le climat de façon significative.
Alors, arrivé à ce point de notre émission, de notre questionnement, on peut se demander, Sébastien Jean, si on ne va pas vers une espèce de déglobalisation ou d'un délitement des liens de la mondialisation. Je vous demanderai de répondre tout à l'heure, mais d'abord, je voudrais qu'on écoute la réponse que m'a faite il y a quelques jours l'ancien directeur général de l'OMC, président de l'Institut Jacques Delors, Pascal Lamy, que vous connaissez évidemment. Et toujours la même question, Trump veut-il la mort de la globalisation ? Sa réponse.
C'est ce qu'il dit. C'est clairement un homme anti-globalisation. D'ailleurs, quand il veut réduire la crédibilité d'un certain nombre des interlocuteurs, il les appelle globalistes. La question n'est pas de savoir ce qu'il pense. Je crois qu'il pense qu'il faut déglobaliser l'Amérique. La question est de savoir s'il a les moyens de le faire et si les coûts qui surviendront au cas où il prendrait ce chemin, qu'il a pris, disons, pour l'instant relativement modestement, si les coûts ne vont pas endommager l'économie américaine de telle sorte que ça le fasse renoncer à cette vision des choses. Je crois que le débat est ouvert.
Et quels sont ces coûts auxquels il s'exposerait ?
C'est évident que, compte tenu de l'insertion de l'économie américaine dans l'économie internationale, renationaliser l'économie américaine conduirait à des pertes d'efficience, parce qu'en gros, comme disait George W. Bush, les États-Unis importent de l'étranger ce qu'ils font moins bien que les étrangers, et si vous protégez l'économie américaine, vous allez réduire son efficacité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un certain nombre de milieux économiques américains ne suivent pas Trump dans ses rodomontades de protectionnistes.
Il a menacé de hausse de droits de douane certains produits chinois en particulier. Est-ce que c'est en fait une protection à l'égard de la Chine que cherche Trump ?
Oui, sûrement. Il a dit depuis longtemps qu'il considérait que le déficit de la balance commerciale américaine était un problème commercial, ce qui est une erreur profonde. C'est un problème macroéconomique, c'est pas un problème commercial. Et il a très longtemps considéré que la Chine est le bouc émissaire des maux des États-Unis. Je dis pas que c'est totalement faux. Je suis de ceux qui pensent que les règles du commerce international aujourd'hui devraient être resserrées pour corriger un certain nombre de pratiques chinoises. Pour autant, cette obsession anti-chinoise me semble mal fondée. Elle est d'ailleurs probablement plus révélatrice de rivalité politique, géopolitique, ou de rivalité technologique que de rivalité commerciale.
C'était donc Pascal Lamy, Sébastien Jean, déglobalisation ou pas ? Est-ce que les États-Unis peuvent se déglobaliser ?
Ça serait effectivement extrêmement coûteux. On voit bien que dans le conflit avec la Chine, probablement le sujet fondamental, c'est au fond un conflit de souveraineté et de pouvoir géopolitique, de puissance géopolitique. Et d'ailleurs, dans la stratégie de sécurité nationale publiée par le président Trump en décembre dernier, ils ont qualifié la Chine de concurrence stratégique. Donc derrière, il y a le maintien ou de position dominante dans des secteurs stratégiques. Or, je crois qu'il est assez clair que dans l'économie d'aujourd'hui, il sera difficile aux États-Unis de maintenir une position dominante dans des secteurs stratégiques de très haute technologie sans rester un minimum ouvert au reste du monde. Donc, je suis absolument d'accord avec l'idée formulée par Pascal Lamy, selon laquelle il y aurait des coûts très importants et probablement trop importants. Et d'ailleurs, il me semble que la stratégie de Donald Trump, c'est vraiment conçue comme une stratégie de négociation, c'est-à-dire je prends une position extrême pour essayer de mieux négocier ensuite. D'ailleurs, ça a été très manifeste dans la façon dont il a annoncé, par exemple, les droits de douane contre la Chine, ou droits de douane contre la Chine. Il a annoncé des positions très dures, des sanctions commerciales très dures. Et en même temps, dans le relativement courte intervention qu'il a faite pour ça, il a prononcé 10 fois le mot négociation ou le verbe négocier. Donc vraiment, pour dire assez clairement, finalement, je fais ça, mais c'est pour créer les conditions d'une négociation. Le problème, c'est que tout ça est très dangereux, crée une situation très instable. On est un peu au bord du gouffre et donc on ne sait pas où est-ce que ça peut nous entraîner, parce que l'idée, c'est que les partenaires vont être intimidés par déstabilisation. Mais si ils font une surenchère, on ne sait pas très bien où ça va aller. Donc au fond, on a le sentiment d'un jour de poker qu'on n'a jamais vu finir une partie jusqu'à présent.
Et Sébastien Jean, les Européens vont être rattrapés par ces sanctions commerciales. Le gouvernement allemand dit qu'il est sûr que le 1er mai, donc dans quelques jours, ces taxes douanières vont s'appliquer aux exportations européennes aussi d'acier en particulier.
Alors effectivement, l'Union européenne est exemptée sur les taxes d'acier contre les importations d'acier et d'aluminium, mais provisoirement et seulement jusqu'au 1er mai. On va voir ce qui se passe à ce moment-là. Et entre-temps, ce qu'on constate, c'est que à chaque prise de parole de Donald Trump, il manque sur le sujet, il insiste sur le caractère très déséquilibré des relations commerciales avec l'Union européenne et en particulier avec l'Allemagne. Et de fait, il y a un excédent commercial allemand qui est très élevé. Mais j'ai dit tout à l'heure que c'était plus une question macroéconomique que commerciale. Effectivement, ça veut dire que les Européens sont un peu pris à partie dans cette dans ce conflit qui est, enfin, dans ces tensions qui sont essentiellement entre les États-Unis et la Chine. Et donc, ils auront du mal à rester seulement spectateurs.
Il y a un point qu'on n'a pas abordé encore, ce sont des mesures autres que Donald Trump a pris pour protéger le marché américain, c'est sa réforme fiscale. Il a eu beaucoup de mal à la faire appliquer, mais là aussi, ça ne concerne pas que les contribuables américains, ça concerne aussi les entreprises étrangères.
Absolument, c'est-à-dire que une partie, c'est pas le seul aspect, hein, et c'est même pas nécessairement le plus important, mais une partie des motivations de cette réforme fiscale venait de l'idée que l'Amérique avait été abusée finalement dans la concurrence internationale, ne s'était pas, et que les partenaires n'avaient pas joué le jeu d'une concurrence loyale et qu'il fallait réagir contre ça. D'où différentes dispositions pour, d'une part pour faciliter le rapatriement des bénéfices des multinationales américaines à l'étranger. En fait, ils sont passés d'un système où ils taxaient les bénéfices au niveau mondial, mais en fait, ils donnaient une forte incitation aux multinationales américaines à les laisser à l'étranger parce qu'elles n'étaient taxées que quand ils revenaient aux États-Unis. Limité ça. Bon, ça, c'est une chose, c'est pas forcément très gênant. Ils ont beaucoup baissé leur taux d'imposition sur les sociétés aussi, hein. Il était à 35%, le taux d'imposition sur les profits des entreprises, il passait à 21%. Donc ça va relancer probablement quand même la concurrence fiscale dans le monde. Ça va aussi donner des moyens plus importants à certains nombre d'entreprises américaines. Puis ils ont pris différentes mesures qui sont un peu inquiétantes pour les Européens notamment, parce que certaines d'entre elles, par exemple, menacent les banques d'avoir une double imposition sur leurs bénéfices, hein, donc en particulier une imposition lorsque les filiales américaines des banques européennes rapatrient des bénéfices en Europe. D'après la nouvelle loi fiscale américaine, il faudrait qu'ils soient taxés à ce moment-là.
Et puis donc... Et aux États-Unis et en Europe.
Et en Europe après. Donc ça, c'est là qu'il y a un risque de double imposition et puis qu'il y a une entorse à ce qui était des engagements dans des traités fiscaux. Des dispositions aussi qui font que les revenus d'investissement intangible, en fait les revenus de droits de propriété intellectuelle notamment, quand ils viennent de l'étranger, seraient moins taxés que ceux qui sont obtenus aux États-Unis. Et donc là, c'est une forme déguisée de subvention aux exportations qui probablement, si les choses vont de l'avant, sera attaqué devant l'OMC par les partenaires, qui en tout cas est un gros sujet de préoccupation pour nous en Europe.
On va écouter un peu de musique maintenant. On part aux États-Unis écouter Neil Young, un rocker célèbre, un morceau qui s'appelle Rockin' the Free World, qui avait été utilisé comme hymne par Donald Trump pendant sa campagne pour ses meetings, et Neil Young s'était opposé à cette utilisation. Un petit clin d'œil musical. Neil Young, Rockin' the Free World, dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons du commerce mondial face à la déflagration de Trump avec Sébastien Jean, directeur du CEPI. À Pékin, face à cette offensive américaine, on semble lâcher un peu de lest. Un exemple, jusqu'à présent, pour produire des voitures en Chine, les constructeurs étrangers devaient créer une co-entreprise avec un partenaire local en se partageant le capital moitié-moitié. Une mesure dénoncée comme protectionniste par Donald Trump. Or, à la surprise générale, Pékin vient d'annoncer la levée de cette restriction d'ici 2022 et même cette année déjà pour les véhicules électriques. Alors, est-ce une réponse à la menace américaine d'une guerre commerciale? Dans les allées du salon de l'automobile qui vient d'ouvrir ses portes à Pékin, les fabricants accueillent la nouvelle avec prudence. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Heike Schmidt.
New Levida is now based on the latest MQB platform. The size is greatly improved. It showcases a combination of Chinese aesthetics and German craftsmanship.
L'esthétique chinoise combinée au savoir-faire allemand. Pas question pour Jochem Heitzmann, patron de Volkswagen Chine, de changer ce cocktail savant qui a fait du géant allemand le champion incontesté sur le premier marché mondial.
Bien sûr, nous saluons toute libéralisation du marché, mais nous travaillons avec des partenaires chinois solides et nous allons maintenir cette coopération étroite. La fin des restrictions n'y changera rien.
Faut-il remercier Donald Trump pour avoir poussé Pékin à ouvrir son secteur automobile?
Voyons, ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Nous travaillons en Chine depuis plus de 30 ans avec grand succès. Nous n'avons pas besoin des Américains.
La menace d'une guerre commerciale a bel et bien fait bouger les lignes, estime au contraire l'analyste Ferdinand Dudenhofer.
Trump, avec ses tweets, a remué le marché. La Chine a compris qu'elle doit s'ouvrir si elle veut devenir un leader mondial de la technologie.
À l'heure où les ventes se tassent en Chine, Pékin pousse ses constructeurs à voler de leurs propres ailes pour conquérir le monde. C'est là la véritable raison qui explique la fin des mesures protectionniste, selon cet expert.
Pékin veut mettre ses propres constructeurs, ses entreprises d'État sous pression. Dans le passé, elles se sont contentées de copier les modèles occidentaux. Aujourd'hui, on met le paquet sur l'innovation. Le président Xi veut la qualité et la technologie. Pas d'imitation bas de gamme.
En trois décennies de partenariat forcé, Volkswagen a dû, comme toute autre marque étrangère, partager ses secrets de fabrication. Un savoir précieux dont les ingénieurs chinois ont tiré profit, estime le PDG de Volkswagen, Herbert Diess.
Bien sûr, les Chinois ont beaucoup appris. L'industrie chinoise de l'automobile est sans doute aujourd'hui la plus compétitive. Cela leur permet de baisser les barrières commerciales.
Les constructeurs dévoilent leur carrosserie rutilante comme si de rien n'était. Le geste d'ouverture de Xi Jinping est loin de créer l'effet d'une bombe. Faire cavalier seul sur ce marché extrêmement disputé sera trop coûteux, voire risqué. Mieux vaut donc pour Yves Bonnefond, PDG de la marque française DS, de miser sur son partenaire Chang'an, tout en bénéficiant des nouvelles règles.
C'est très utile d'avoir un partenaire chinois en Chine qui connaît parfaitement le marché chinois, qui nous apporte toutes ses connexions sur le terrain. Et c'est très intéressant aussi d'avoir une forme d'assouplissement des règles de façon à avoir plus de flexibilité pour tous les acteurs et à en faire bénéficier les consommateurs.
S'il y a un patron qui peut se frotter les mains, c'est l'américain Tesla. Le fabricant de voitures électriques haut de gamme pourra enfin ouvrir une usine à Shanghai, seul, sans être obligé de composer avec un concurrent local. Une première.
Un reportage signé Heike Schmidt à Pékin. Sébastien Jean, c'est contre-productif en fait ces menaces de Donald Trump puisqu'il pousse les Chinois à s'ouvrir plus, à attirer des industriels américains, l'exemple de Tesla?
Il me semble d'abord que ça illustre, c'est très intéressant effectivement ce reportage, ça illustre notamment le fait que par rapport à ce contexte, les dirigeants chinois ont envie de négocier. Ils veulent surtout éviter le conflit, ils veulent négocier. Ensuite, ça s'inscrit vraiment dans une tradition de longue date de pilotage économique en Chine qui a été tout à fait dynamique. C'est-à-dire on reste pas figé sur des positions de protection. Et par exemple, quand ils ont mis des droits de douane peu après leur entrée à l'OMC sur les pièces détachées d'automobiles, Bon, ça a été contesté par les autres pays. Donc, ils sont allés jusqu'au bout des procédures et puis des appels devant l'Organisation mondiale du commerce en maintenant ces mesures. Mais quelques années après, quand on leur a vraiment donné tort, finalement, qu'ils avaient épuisé toutes les voies de recours, ils les ont levées. Et ils les ont levés et au fond ça allait très bien dans la séquence, si vous voulez, parce qu'à ce moment-là ils avaient déjà obtenu des constructeurs, des principaux constructeurs automobiles étrangers qui s'installent en Chine pour produire. Et donc finalement il n'y avait plus d'inconvénient pour eux à s'ouvrir et même il y avait un bénéfice, c'est-à-dire on retrouvait finalement un jeu de concurrence qui alimentait la compétitivité de leur secteur. Donc et il y a eu d'autres épisodes comparables, par exemple dans les énergies renouvelables où ils se sont protégés pendant un temps et puis finalement une fois qu'ils avaient une position plus forte sur le marché, après ils ont ouvert. Et donc là, c'est ce qui est en train de se passer dans le secteur de l'automobile, avec un certain opportunisme. Ils s'en servent aussi comme monnaie d'échange par rapport à Donald Trump. C'est révélateur du fait aussi que la nature des défis pour l'économie chinoise a changé. Maintenant, leur défi, c'est la croissance par l'innovation. C'est acquérir des positions dominantes dans des secteurs stratégiques de très haute technologie.
J'allais vous parler de ça parce que... parallèlement à toutes ces menaces contre sur l'acier, l'aluminium, etc., du côté américain, on a décidé d'interdire pendant 7 ans, par exemple, toutes les exportations de composants américains vers une entreprise chinoise importante, ZTE, à laquelle les Américains fournissent 25 à 30% des composants qu'ils utilisent. Mm-hmm. Selon le Wall Street Journal, des mesures spécifiques visant les acteurs du cloud, la location de capacités informatiques à la demande, seraient à l'étude à Washington. Est-ce que ça n'est pas ça la vraie bagarre ? Les États-Unis qui craignent de perdre le leadership technologique d'ici 25 à 30 ans ?
Absolument. Et alors, dans les mesures dites de la section 301, donc supposées lutter contre le vol de propriété intellectuelle de la Chine, qui ont été annoncées par les Américains récemment, le 23 mars, il y a un rapport derrière de l'administration américaine du commerce, et il est très intéressant ce rapport, parce qu'on voit ce qu'il y a dedans, c'est quasiment à toutes les pages, des questions justement sur le leadership, sur les technologies sensibles. Et donc, c'est une question de puissance économique, de leadership économique dans les secteurs de haute technologie, et également de puissance militaire, parce que autant il y a peut-être 40 ans, on pouvait distinguer ce qui était l'aéronautique, là c'était du militaire, d'autres de la technologie, des jouets qui étaient du civil. Aujourd'hui, dans tout ce qui est électronique, informatique, sont des technologies qui sont clés à la fois pour la haute technologie d'usage civil, mais aussi militaire. Il est très difficile de faire le départ entre les deux. Et du coup, on est vraiment dans une question de leadership géostratégique, effectivement.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI, nous parlons du commerce mondial face à la déflagration de Trump avec Sébastien Jean, directeur du CEPI. Alors, il y a les Chinois, il y a les Européens qui se préoccupent, mais tout le monde sur l'échiquier mondial ne semble pas concerné au premier chef par ce qui se passe entre la Chine, l'Europe, les États-Unis. Exemple avec l'Argentine, gros producteur de soja, concurrent des géants américains et brésiliens du secteur, mais qui ne semble paradoxalement pas craindre les conséquences, ni espérer d'ailleurs les retombées d'un embargo chinois sur le soja américain. Un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Aude Villiers à Buenos Aires.
Les Argentins ont beau suivre attentivement le sujet, personne ne croit vraiment que la Chine mette à exécution ses menaces. Des taxes de 25% sur les importations de soja américain. Enrique Eriz est président de Novitas, entreprise de conseil dans le secteur agricole.
La Chine ne peut pas se passer du soja américain, mais je crois que c'est très malin de la part des Chinois de faire cette annonce maintenant, parce qu'il reste très peu de soja aux États-Unis à exporter en ce moment, et le Brésil est en pleine récolte. La Chine peut acheter uniquement au Brésil, mais c'est une menace qui ne peut pas perdurer. En octobre-novembre, la Chine devra de toute façon se réapprovisionner auprès des États-Unis, puisque le Brésil n'en aura plus.
La raison est simple, la Chine a besoin de près de 100 millions de tonnes de soja chaque année, une immense quantité qu'un seul pays ne peut lui fournir. Le Brésil l'approvisionne à 50% et les États-Unis fournissent habituellement presque tout le reste. Qu'en est-il de l'Argentine ? Andrés Alcaraz, porte-parole du Centre d'exportation des céréales, nous répond.
Près de 80% du soja argentin est transformé en huile et en farine et destiné à un usage industriel. La Chine, elle, achète des graines de soja, ce que l'Argentine exporte très peu.
Les producteurs argentins n'auraient-ils pas intérêt alors à exporter directement leurs graines de soja pour répondre à la nouvelle demande chinoise ? Pablo Adriani, consultant en gestion agricole.
Je crois que
L'Argentine s'est spécialisée dans le soja transformé, pas dans l'exportation de graines pures. Cela génère davantage d'activité, c'est plus rentable. Les entreprises ont intérêt à donner de la valeur ajoutée à leur soja, d'autant plus que nous avons déjà des clients bien définis.
Et en premier lieu, l'Europe, qui achète une grande partie de la production de farine de soja argentin. L'Inde, quant à elle, achète 50% de l'huile de soja qu'exporte l'Argentine chaque année. Des échanges établis de longue date, mais qui seront fortement chamboulés cette année. Et ce n'est pas le contexte international qui est à blâmer, comme l'explique Émile Cetere, analyste de la Bourse de commerce de Rosario.
C'est une année difficile. Nous avons eu une sécheresse très importante qui a fait que la récolte de soja cette année sera seulement de 37 millions de tonnes, la plus basse en 10 ans. Cette sécheresse représente pour les cultures de soja et de maïs confondus des pertes de 4,6 milliards de dollars, soit 0,7% du PIB de l'Argentine pour 2018.
Dans ces conditions, le pays aura bien du mal à approvisionner tous ses clients et pourra donc d'autant moins en fournir de nouveaux comme la Chine.
Un reportage signé Aude Villiers à Buenos Aires. Sébastien Jean, donc la guerre commerciale, elle les laisse froid complètement?
Oui, ça montre assez bien la complexité des phénomènes qu'on a, parce que la Chine a dans le soja un bon instrument de pression sur les États-Unis, parce que ils importent pour plus de 12 milliards de dollars par an de soja depuis les États-Unis. C'est énorme pour une seule culture. Ça représente plus du tiers de la production américaine, donc en plus ça fait une menace sur un secteur, donc ça peut être un assez bon levier politique. Mais le problème, c'est que si les Chinois actionnent cette menace, à ce moment-là, il faut qu'ils se fournissent ailleurs. Or, le soja au niveau international, il y a trois gros producteurs et trois seulement, c'est les États-Unis, le Brésil et l'Argentine. Et donc, à ce moment-là, il faut aller trouver une source d'approvisionnement alternative assez rapidement en plus, parce que ça sert de nourriture animale en Chine et il faut nourrir ces animaux. Et donc, ce qu'on voit là, et ce qui est intéressant, c'est que les Argentins eux-mêmes disent, nous, en fait, à court terme, on va pas pouvoir vraiment remplacer les Américains pour faire l'approvisionnement des Chinois. Donc, ça va pas être aussi simple que ça. Alors, le Brésil pourrait augmenter sa production, mais ça va pas se faire instantanément. En plus, c'est pas forcément exactement les mêmes types. Donc, c'est de la graine de soja qu'exportent les États-Unis. Ce sont des produits transformés, des tourteaux et de l'huile pour l'Argentine, par exemple. Donc, voilà, ça met des complications. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire les coûts sont énormes de défaire un peu ces relations internationales, et les pays se tiennent les uns les autres, et ça crée quand même une incitation très forte à négocier. Voilà, mais ça n'empêche pas les dangers très importants. Juste un autre aspect important, une dernière chose à souligner, c'est que au fond, ça montre que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est une augmentation massive de l'incertitude sur les marchés internationaux liée aux mesures de Donald Trump. On n'est pas sûr que ça va briser les relations commerciales, mais on est sûr que ça crée beaucoup d'incertitudes autour de leur devenir.
Et l'incertitude, c'est mauvais pour l'économie?
L'incertitude, c'est très mauvais pour le commerce en particulier, parce que si on veut établir des relations commerciales, souvent il faut investir. Et donc c'est vraiment dans la durée et dans un cadre stabilisé qu'on arrive à développer des relations commerciales constructives.
Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous, Sébastien Jean, de nous avoir accompagnés tout au long de ce parcours, de nous avoir éclairés sur cette situation commerciale internationale pour le moins confuse. Rendez-vous sur la page d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, sur RFI.fr. Vous y retrouverez l'intégralité de cette émission, plus les reportages qui ont été diffusés, plus le lien vers le livre consacré par le CEPI à 40 ans de vie économique mondiale dont je vous parlais tout à l'heure, dont Sébastien Jean vous parlait tout à l'heure. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs, sur RFI.